Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Je veux parler de Polytechnique. C'est le... ça se dit, hein, le 32e anniversaire. C'est pas toujours positif, un anniversaire, mais c'est... ça fait 32 ans aujourd'hui là qu'une nouvelle secouait le Québec, le Canada, le monde même. Et on va écouter un extrait d'un des premiers comptes rendus. Ça se passait à Radio-Canada. De ce qui allait devenir le massacre de Polytechnique.
Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme armé d'on ne sait quoi a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école Polytechnique. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18h. L'individu se serait suicidé.
On connaît la suite. 14 jeunes femmes tuées dans un attentat anti-féministe, dans un féminicide de masse, évidemment. En 89, on n'utilisait pas ces mots-là. Et je dois vous le dire, d'habitude, je suis pas un très grand fan des commémorations annuelles d'événements historiques dans les médias, là. Souvent, ça apporte pas une grande valeur en termes de contenu, de souligner qu'il y a 5, 10, 15, 20, 50 ans, tel événement s'est produit. On finit toujours un peu par répéter ce qu'on avait dit l'année précédente. Mais il y a des exceptions. Et le 6 décembre 1989, c'est l'exception des exceptions. Je pense que chaque année, faut souligner le 6 décembre. C'est pas banal ce qui s'est passé ce jour-là. Déjà, il y a le nombre de victimes, 14. Là, on est dans l'horreur, évidemment, la plus absolue dans une société pacifique. Et ensuite, il y a le genre des victimes. Ça, c'est le cœur de l'horreur de ce qui s'est passé en 89. Des femmes, toutes des femmes. Le gars est entré à Poly, armé. Et d'abord, est entré dans une classe au deuxième étage. Il a tiré un coup de feu au plafond. Il a dit « les filles à gauche, les gars à droite ». Et il a ordonné aux hommes de sortir. Il restait 9 étudiantes. Il leur a demandé si elles savaient pourquoi elles étaient là. Évidemment, pas une femme qui savait, pas une étudiante qui savait ce qui se passait. Et le gars a dit « je suis en guerre contre le féminisme ». Et il a tiré. Puis il a tué 6 des étudiantes sur 9, juste là, d'un coup. Et il voulait tuer le plus de femmes possible, on le sait. Et il y a 8 autres femmes après qui ont perdu la vie dans les minutes qui ont suivi. Ça existe, la haine des femmes, je pense qu'il faut le dire, la haine particulière des femmes. Ce qui était différent chez ce gars-là, c'est qu'il est passé à l'acte de cette façon-là. Rentrer dans une école, cibler les femmes et en tuer 14. C'était un féminicide. Et ça a pris 30 ans avant qu'on dise le mot « féminicide ». C'est quoi un féminicide? Mais c'est l'acte de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et en 2021, je le souligne, je le rappelle, au Québec, on est rendu à 18 féminicides présumés. Je dis présumés parce que dans plusieurs des cas, l'enquête du coroner n'est pas finie, le procès pour meurtre n'est pas terminé, donc on y va avec présumé, mais on est à 18. Et on compte donc 18 femmes qui auraient été tuées parce qu'elles sont des femmes. 18, c'est Polytechnique plus 4, puis l'année n'est pas finie. Je reviens à Polytechnique. Ce matin, chez Paul Arcand, il y a un dramaturge du nom de Jean-Marc Dalphon qui était en entrevue, et M. Dalphon a fait une pièce de théâtre documentaire sur Poly. Et il a dit à Paul que la pièce a été présentée à des étudiants et que souvent, il y a beaucoup d'étudiants, je parle des jeunes secondaires, je ne me trompe pas, mais il y en a beaucoup qui ignorent ce qui s'est passé à Polytechnique en 1989. Bien, c'est pour ça qu'il faut en parler. Chaque année, année après année. C'est pour ça qu'il fallait même une journée particulière le 6 décembre pour en faire une journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Je veux souligner le courage des familles des victimes de Poly. Les commémorations de 2019, il y a 2 ans, pour le 30e, c'était en quelque sorte le dernier tour de piste pour plusieurs de ces familles-là. Pendant des années, elles ont pris la parole. Ben, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'on ne vous oublie pas. Je veux aussi souligner particulièrement, 32 ans plus tard, le travail de Nathalie Provost. Nathalie Provost, vous le savez, elle a été atteinte par balle, 4 balles à Poly. Elle était dans les 6 survivantes de la première classe. On va écouter ce qu'elle avait à dire peu de temps après l'attentat. Peu de temps après qu'elle ait survécu aux balles, elle était encore dans son lit d'hôpital quand elle a fait une conférence de presse.
Toutes les jeunes filles du Québec qui pensaient aller en génie, je vous demande d'envisager cette possibilité de carrière-là.
Nathalie Provost a survécu. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à quelques reprises à Nathalie Provost en entrevue, en conversation des fois où elle m'a expliqué là, certains enjeux. C'est une femme forte qui n'avait pas à se compliquer la vie depuis 3 décennies, à prendre la parole publiquement, à faire de la pédagogie, à forcer chez chacun d'entre nous une sorte de devoir de mémoire. Elle s'est impliquée, par exemple, dans la lutte pour le contrôle des armes à feu. Et parallèlement, après Polly, Nathalie Provost est devenue ingénieure. Elle a pris sa place dans la société. Elle a eu des enfants. Nathalie Provost, dans le fond, est devenue ce que le salaud qui a tenté de la tuer ne voulait pas qu'elle devienne. Moi, j'ai toujours été impressionné par la force de cette femme-là, survivante de Polly, Nathalie Provost, et je lui dis à elle aussi un merci particulier. On l'a vu dans plusieurs tribunes médiatiques aujourd'hui. Elle a signé un texte très poignant là, sur le site de TVA. Vous irez lire ça. Chaque année, le 6 décembre, on commémore Polly. Chaque année, je pense que c'est nécessaire de le faire. Parce que le mal qui a mené à l'attentat antiféministe de 89, la haine des femmes, ça existe encore. Chaque année, le 6 décembre, on se souvient de Polly. Et chaque année, je pense qu'il faut dire et redire le nom des 14 victimes de Polly. Les voici. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Aviernik, Barbara Klushnik-Wijachevich, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud et Annie Turcotte. Quant au tueur, personnellement, moi, je dis jamais son nom. C'est le tueur. C'est l'auteur de l'attentat. Le salaud. Le loser. C'est tout ce que je dis à son propos. C'est une décision personnelle. Je juge personne d'autre dans les médias qui donne son nom. C'est mon petit geste à moi. Je veux pas lui donner de lumière parce que juste dire son nom, c'est lui concéder une part de lumière, et je refuse de faire ça. Le massacre de Polly, c'était un attentat antiféministe, un féminicide de masse. Et il y a 2 ans, pour les 30 ans de la tragédie de Polly, Karine Vanasse avait animé cette soirée magnifique et émotive sur le Mont-Royal. On le sait, Karine Vanasse a produit le film Polly, sorti en 2009, en plus d'y tenir un rôle. Elle est en studio. Karine, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir d'être là. C'est toujours un peu... Je suis toujours un peu stressée de parler de Polytechnique, même si au fil des ans, de façon surprenante même pour moi, je continue d'y être associée aussi. Mais je pense que le stress, évidemment, vient du fait que c'est pas un événement que j'ai vécu moi-même. Mm-hmm. Puis en même temps...
T'avais 6 ans quand c'était arrivé.
Oui, j'avais 6 ans. Donc, c'est évidemment pas à ce moment-là que j'ai été en contact vraiment avec les répercussions de l'événement puis sa nature non plus, son symbole non plus. Comme tu le mentionnais, là, il y a 2 ans, quand on m'a demandé d'aller animer la soirée commémorative, qui a vraiment pris... j'avais participé à d'autres soirées commémoratives de Polytechnique à travers le temps, mais celle-là en particulier prenait un sens complètement différent parce que pour la première fois, de façon plus officielle, on appelait cet événement-là un féminicide. Donc, je pense que tous ceux qui étaient impliqués dans l'organisation aussi de la commémoration de cet événement-là chaque année avaient le sentiment d'être allés au bout aussi de ce qu'eux pouvaient faire avec ça.
Quand survient, tu as été associé à la commémoration de cet événement-là par la soirée il y a 2 ans sur la montagne, mais aussi par le film Polly, sorti en 2009. D'abord, qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de porter ce film-là? Tu as joué dans le film, tu l'as produit. Pourquoi Polly?
Je pense que à l'époque, j'étais pas vraiment capable de répondre à cette question-là. C'était j'avais plus l'impression que c'était intuitif qu'autre chose. Puis finalement, c'était pas si intuitif que ça. Je pense que c'était plus une question de curiosité, dans le sens que à 19 ans, un homme que je respectais beaucoup m'a demandé si j'étais féministe et j'ai pas su quoi répondre. Et ce malaise-là de pas savoir quoi faire du mot, c'est comme mélangé avec le fait que, j'avais déjà été demandé aussi, lors d'une soirée commémorative de Polytechnique, quand j'avais, je pense, 15 ans, d'aller lire un texte, tout ça. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'avais été pour la première fois en contact avec cet événement-là. Mais mon malaise avec le mot féministe, alors que j'étais moi-même une jeune fille qui était féministe de par mes intérêts.
Sans le savoir.
Sans le savoir, exactement. Mais pourquoi j'osais pas le dire de façon affirmée, de façon affichée? Donc, le processus de travailler sur cette histoire-là, sur ce film-là, a été motivé, a été teinté beaucoup par ça.
Mais sur la montagne, il y a 2 ans, en parlant du film Polly, Karen Vanasse te dit « c'est parce que j'avais peur du mot féministe que j'ai voulu mettre de l'avant le film Polytechnique mm-hmm. ». Cette peur-là venait d'où? Pourquoi on a pas... Encore aujourd'hui, ça rend certaines femmes mal à l'aise.
Bien, certaines femmes, certains hommes aussi. Je pense que ce qu'on vit en plus cette année aussi autour de... non seulement juste du mot féministe, mais de tout ce qui vient autour de la violence faite aux femmes aussi, tu sais, c'est... Ben, premièrement, je pense qu'au Québec, de toute façon, on le porte, ce malaise-là aussi. Veux, veux pas, 89, et quand même, on était quand même une société où on avait le sentiment que ces questions-là étaient réglées. Mmh. Alors qu'en 89, on n'était pas encore à parler de MeToo, on n'était pas encore à parler de tout le reste, qui, là aussi, maintenant, en rend encore certains inconfortables. Des filles aussi qui disent, non, ça, on est encore en train d'entendre des fois des personnes dire, mais là, ça va trop loin, là, ça va. Mais je pense que mon malaise à la base que j'avais, à 19 ans, il existe encore aujourd'hui. Même moi, des fois, il y a des histoires de, que ce soit, oui, les féminicides, mais juste des histoires de femmes qui vivent des situations, une amie d'une amie qui te raconte que, ah, oh, mais telle personne, elle vit ça, mais il me semble que c'est pas normal, mais là, je suis comme tannée qu'elle m'en parle, je sais pas quoi faire avec ça. Les malaises autour de ces questions-là, c'est tabou. On n'est pas confortable. Puis des fois, de s'arrêter puis de vraiment recevoir l'histoire, tu sais, moi, avec Polytechnique, c'est ça qui s'est passé. On a pris le temps de fouiller cette histoire-là. Puis, veux, veux pas, c'est quand tu te rapproches de l'histoire, quand tu te rapproches du cœur de cette histoire-là, que finalement, t'es pas dans le jugement. T'es juste dans le fait de recevoir cette horreur-là. C'est pas des belles histoires desquelles se rapprocher, mais c'est des histoires qui font partie de nous puis qui sont nous aussi, en général.
Polytechnique, 6 décembre 1989, ça touche toutes les femmes, dans le fond. C'est pas seulement les femmes qui étaient contemporaines de 1989. T'avais 6 ans quand c'est arrivé. Ta rencontre, si je peux dire, avec Polytechnique, ça s'est fait comment, la découverte?
J'avais été invitée par les membres, en fait, certains membres des familles qui s'occupaient de l'organisation de la commémoration chaque année. Puis, une jeune actrice, là, j'avais, je pense, 15-16 ans à l'époque, puis j'étais allée lire un texte. C'est vraiment ce soir-là que j'ai compris que, OK, ça, c'était peut-être 1-2 phrases dans le livre à l'école, là, le fait de parler du 6 décembre, mais l'impact de cet événement-là, de cette tragédie-là, mais encore là, je pense qu'à 15-16 ans, c'était, on le présentait comme une tragédie. Le cœur de ce à quoi ça touchait, je pense pas que je le recevais encore pleinement à ce moment-là. Mais le malaise entourant le mot féministe, ça, un peu malgré moi, je pense que ça a toujours fait partie de comment j'entendais ce mot-là, DJ.
Tu as créé un cercle des femmes avec ton amie, la psychologue Nancy Boisvert. C'est une sorte de geste féministe, ça?
Oui, effectivement. Effectivement, puis tu sais, c'est... mais de toute façon, au-delà du geste féministe ou pas, je pense que quand on a créé ce cercle-là au début de la pandémie, c'était vraiment l'intention qu'on avait, c'était de dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut passer à l'action avec peu de moyens quand même aussi. Donc, Nancy pouvait pas rencontrer une centaine de clients de plus non plus pendant cette période-là en individuel. Donc, c'était vraiment juste de mettre à la disponibilité, en fait, des femmes ce 2 heures-là par semaine où on disait, ben regardez, il y a de l'aide qui va être là, il y a une professionnelle qui est là, donc on est guidé, on partage, mais en même temps, il y a quelqu'un qui est là pour rattraper les situations aussi. Puis c'est juste de... En fait, ce qui a été vraiment étonnant pour moi, puis je pense que pour plusieurs aussi, puis des femmes dans le cercle, des femmes de tout milieu, travail, situation familiale, âge aussi, c'est vraiment à quel point on se doute jamais de ce que l'autre face à nous, ce à quoi elle fait face, ce qu'elle vit. Puis que c'est la même chose pour les gars aussi, là, dans le sens que entre femmes, mais avec des hommes, la même affaire. Puis que si on prend pas le temps d'écouter vraiment, puis des fois, c'est des petits indices, là. Des fois, c'est un mouvement de sourcil qui n'est pas comme d'habitude. Des fois, c'est juste un mot où oups, la densité émotive autour est un peu différente que d'habitude aussi. Puis d'oser y aller, d'oser dire, mais regarde, je suis pas un professionnel, j'ai pas tous les moyens peut-être, mais si juste de recevoir cette histoire-là peut-être peut faire du bien, peut être déjà un premier pas aussi. Puis par la suite, ben peut-être que tu pourras juste être cette oreille-là qui aura fait en sorte que cette histoire-là existait. Pas dans la honte, pas dans la gêne, pas dans le côté tabou de tout ça aussi. Donc voilà. Donc c'est simple comme solution, ça règle pas tout, mais ça permet à bien des choses de respirer, je pense.
C'est bien dit. Dernière question, Karen Vanasse. On est le 6 décembre 1989. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi, cette journée-là, chaque année et cette année en particulier?
Les autres années, c'est drôle, hein, Patrick? D'habitude, je parlais de l'événement, même, mettons, sur mon compte Instagram. En général, je ne fais pas vraiment d'entrevue autour de ça parce que, justement, je ne me sentais pas impliquée, moi, directement. Donc, j'avais l'impression que le film faisait le travail. C'est en général le 7 décembre que je me permettais de faire un post, comme si, OK, là, l'événement... je peux me l'approprier un peu plus parce que...
Tu voulais pas quoi, voler leur lumière ou quelque
chose comme ça? Oui, comme si c'était pas à moi de prendre parole cette journée-là. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est pas vrai que c'est pas à nous de prendre parole. C'est pas vrai que c'est quand juste un événement te touche personnellement qu'il faut que tu prennes et que tu te donnes la peine d'en apprendre plus sur cette situation-là pour te positionner. Faut le faire. Puis faut le faire même si... Comme je disais, même si c'est inconfortable, même si au départ, on a l'impression qu'on n'a pas tous les outils pour être capable de se positionner aussi. Au-delà de se positionner, il faut se laisser toucher par ces histoires-là. Et au-delà de la réflexion intellectuelle qui peut venir avec, de prendre le temps de les recevoir en plein cœur, ça fait mal, c'est pas beau, c'est laid des fois. Mais si c'est la réalité, ça vaut la peine qu'on la regarde.
Encore là, écoutez.
Exact.
Karine Vanasse, merci beaucoup.
Merci.
C'était Karine Vanasse, actrice, productrice et féministe.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
16h28, vous le savez, il y a plusieurs facteurs qui poussent quelqu'un à la rue, à l'itinérance. Bon, il peut y avoir des maladies mentales, il peut y avoir aussi des problèmes de dépendance, d'abus, par exemple, d'alcool, de différents types de drogues. Des fois, maladies mentales et dépendance. Donc, il y a ce tango-là, si on veut, entre l'itinérance et la dépendance. Et aujourd'hui, dans la presse, ben, il y a un titre de reportage là, qui a retenu mon attention, « De la bière prescrite pour sauver des vies » par les journalistes Lila Dussault et François Roy. Ben, au-delà du titre intriguant là, de prescrire de la bière, le sujet est vraiment intéressant. Pour la première fois au Québec, il y a une ressource en itinérance qui est chapeautée par l'organisme Projet Autochtone du Québec qui offre de l'alcool à petite dose à ses usagers. Pourquoi? Ben, pour que ces gens-là puissent être dans des refuges, parce qu'il y a beaucoup de refuges qui n'acceptent pas les itinérants s'ils consomment. Ben, si tu as besoin de consommer, parce que ça peut être un besoin de consommer, l'alternative, c'est la rue et bien correct en été. Mais en hiver, pas besoin de faire un dessin, que ça peut rapidement devenir un danger mortel. On va parler de tout ça avec Dr Annie Talbot, chercheuse au Centre de recherche du CHUM, médecin de famille en toxicomanie au CHUM. Elle est une des chercheurs sur l'évaluation du projet. Elle était citée dans l'article de la presse d'aujourd'hui. Dr Talbot, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, écoutez, expliquez aux gens qui nous écoutent là comment est-ce qu'on peut prescrire de l'alcool. Moi, je pensais qu'on prescrivait des médicaments. Prescrire d'alcool, quand même, ça frappe l'imaginaire.
Oui, effectivement, hein, c'est contre-intuitif. L'idée, en fait, c'est de partir de l'usage de l'alcool du patient et essayer de trouver une façon de lui en donner pour qu'il puisse maintenir un état de vigilance, donc pas mettre sa santé en danger, ni parce qu'il serait trop intoxiqué, ni non plus parce qu'il tomberait en sevrage.
Donc, ces gens-là qui ont des problèmes de dépendance, s'ils arrêtent de consommer, si je comprends bien, Dr Talbot, là, ben, qu'est-ce qu'ils risquent comme conséquence?
En fait, vous savez, on a tous ou non une relation avec l'alcool. Les gens peuvent arrêter sans problème. Une semaine, un mois sans alcool, on connaît le défi par ailleurs. Mais pour les gens qui utilisent de grandes quantités sur une longue période de temps, le fait d'arrêter abruptement peut mettre leur vie en danger parce que soit à l'arrêt, ils pourraient avoir des signes de tremblement, de confusion, et même voir convulsion. Puis une condition médicale qui est bien décrite dans la littérature et depuis plusieurs centaines d'années, qui s'appelle le délirium tremens. Donc, quelqu'un qui a une grosse consommation d'alcool depuis une longue période de temps, qui arrête de consommer, peut devenir confus à un point tel qu'il pourrait même décéder.
Qu'est-ce qui fait que la personne peut décéder de ne pas consommer d'alcool?
Donc, l'alcool, que ça fait lorsqu'on arrête, c'est qu'on devient avec un système, notre système devient hyper adrénergique. Donc, pour faire ça simple, on va avoir notre pouls qui va augmenter, on va sentir des palpitations, on va avoir de la température, on va avoir de la sudation, des tremblements, à un point tel qu'on peut être confus, avoir des hallucinations. Puis lorsque tout ça arrive avec cette tempête-là, ben, on a un dérèglement à un point tel qu'on peut décéder sans parler des complications. Le fait d'être confus, ben, ça peut nous mettre à risque de chuter, ça peut nous mettre à risque de s'étouffer sur de la nourriture ou avoir des comportements même qui nous mettent en danger.
Ce que vous décrivez là, Dr Talbot, c'est un problème pour les itinérants qui doivent avoir recours à des services d'hébergement, surtout l'hiver, parce que ils doivent, dans le fond, faire le choix entre consommer ce dont ils peuvent pas s'empêcher ou consommer ou l'hébergement. C'est un choix qui peut être mortel.
Exact. Donc, vous avez bien compris, pour certains citoyens, le fait d'être confronté à ce choix met leur vie en danger. Donc, c'est des choix très difficiles. Puis, ils vont prendre la solution la plus adéquate pour leurs besoins du moment. Les ressources en itinérance sont un travail extraordinaire, mais gérer la consommation de quelques substances qu'elles soient, dont l'alcool, dans une ressource, demande aussi une flexibilité aux équipes. Fait que ça se fait pas de n'importe quelle façon non plus. Fait qu'il faut trouver un juste milieu. Puis je pense que le projet Autochtones du Québec, en écoutant leurs usagers et en prenant l'initiative de faire ce projet pilote au Québec, répond définitivement à un besoin de leur population. Ça s'inscrit bien dans une des approches à préconiser.
Vous faites bien de le mentionner, là, les gens qui travaillent en ressources d'hébergement, là, il y en a plusieurs à Montréal, font un travail extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas un angle mort de ces ressources-là que de pas permettre une certaine forme de consommation à certains itinérants?
Mais je pense que le projet pilote développé par PAC en collaboration avec le service de la médecine des toxicomanies sous la gouverne de ma collègue Dr Marsan va permettre d'analyse des données qui vont, j'espère, aider à sensibiliser d'autres refuges puis à voir comment, avec leurs ressources limitées autant financières qu'humaines, peuvent déployer d'autres types de sites comme ça. Mais il faut comprendre que ça demande une infrastructure puis un investissement financier pour supporter ces équipes qui doivent apprendre à travailler avec des gens, des citoyens qui vont être intoxiqués aussi. Donc, c'est pas toujours simple d'avoir des gens aux prises avec une substance. Fait qu'il faut trouver le juste milieu. Je pense que ça répond à un besoin, certainement, j'y crois, mais il faut le faire adéquatement aussi.
Je reviens au principe de prescrire de l'alcool, Dr Annie Talbot, à des gens là, qui sont vraiment dépendants. Quand on prescrit comme ça, j'imagine que c'est à petite dose pour empêcher les symptômes dont vous nous parliez tantôt.
Exact. Donc, tout est dans la nuance. On veut pas non plus rendre le citoyen intoxiqué à un point tel qu'il peut s'étouffer ou vomir ou dans un état second qui mettrait sa vie en danger, mais on veut pas non plus qu'il tombe en sevrage. Donc, vraiment, avec l'expertise des gens terrain, dans ce cas-ci, l'organisme, comme je disais, Projet Autochtone du Québec, et l'expertise de la médecine des toxicomanies avec Dr Marsan, l'équipe d'infirmiers et infirmières, dont Barbara Korotov, qui vraiment, au jour le jour, avec l'équipe, travaille à trouver la bonne dose pour les patients. Et les patients sont partenaires de leur plan de soins. Hein. Donc, ils vont dire, « Ah non, ça, c'est trop. » Ou « Il va se passer. » Puis, on a des symptômes précis à surveiller si c'est pas assez. Comme je parlais tantôt, palpitations, vomissements, diarrhée, sueur, tremblement, par exemple.
Dr Talbot, vous travaillez avec ces clientèles vulnérables. C'est pas des clientèles qui sont toujours faciles, les personnes en situation d'itinérance. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là d'aller vers, disons, une pratique qui est pas simple, qui est pas facile?
C'est une bonne question. En fait, je pensais que j'aurais un stéthoscope autour du cou. Je me promènerais en Afrique avec des girafes, puis j'irais sauver des gens atteints de VIH. C'était un peu comme ça que je m'imaginais ma pratique. En salle québécoise, j'ai toujours eu la sensibilité ou l'intérêt aux clientèles, peut-être plus laissées pour compte au niveau de la santé. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas aller beaucoup plus loin. C'est une passion depuis le début. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. C'était Dr. Annie Talbot, chercheuse au Centre de recherche du CHUM, médecin de famille en toxicomanie au CHUM aussi. Et c'est ça, dans la presse aujourd'hui, Dr. Talbot était cité dans un article très intéressant où on utilise à petite dose l'alcool pour que des itinérants qui sont en situation de dépendance, là, comme ça, acceptent de venir chercher des services d'hébergement. Pourquoi? Parce que, ben, vous avez entendu Dr. Talbot, il y a des itinérants qui font le choix de boire dans la rue, au froid, par exemple, plutôt que d'aller chercher les ressources d'hébergement. Et on le sait, ça peut avoir des conséquences tragiques. On salue tous ceux et celles qui travaillent dans ces ressources d'hébergement.
Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Et voici notre fou du roi, Danny Turcotte.
Danny, oh Danny, je t'aime bien.
Dix mois après avoir abandonné son poste de fou du roi, il est revenu triomphalement, je dirais, hier.
Oui, et à notre grande surprise, Danny Turcotte, qui était assis sur cette chaise, il dit qu'il a lui-même bouché un trou.
Son propre trou,
exactement. Il est en ligne. Bonjour, Danny Turcotte.
Bonjour. Je trouve ça drôle de réentendre la petite musique qu'ils m'ont choisie, parce que c'est une vieille musique d'introduction, tout le monde en parle. Dans l'après-midi, on a répété, puis quand ils ont sorti la musique, ça m'a donné une émotion. Puis j'étais ému d'être là. J'étais content d'être avec la gang. J'étais content de revoir tout le groupe avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années-là. Puis je pense que le groupe était content de me voir aussi. Ça tombe bien.
Pourquoi tu as accepté de revenir?
Ben, ils m'ont payé. Mais non.
Voyons, on a même déjà su combien.
Non, mais sérieusement, on avait convenu, Guy et moi, il y a une couple de mois, que je ferais la dernière émission avant Noël. Puis que j'étais mûr pour ça, parce que j'ai quand même mûri depuis mon départ. J'ai réfléchi. Je veux dire, c'est pas la même situation non plus. Le studio est beaucoup moins, disons, un frigidaire que ce l'était à cette époque-là. La situation est moins anxiogène aussi. Les sujets sont pas tous orientés vers la maudite pandémie. Fait que j'avais dit oui. Puis j'étais content. Finalement, c'est une bonne idée.
Danny, est-ce que ça t'a fait regretter ta décision d'il y a 10 mois?
Non, ça m'a pas fait regretter. J'ai eu beaucoup de plaisir. Par contre, je suis retombé dans mes bottines assez rapidement. Puis non, c'est bien parce que là, c'est sûr que ça se replace un peu. Tu me fais réfléchir toi-même en me posant la question. Tu devrais t'en aller dans le journalisme, toi.
Je vais y penser.
Mais non, mais maintenant, il ne faut pas regretter des décisions. Quand sont prises. Ça, j'ai toujours pris des décisions comme ça, mais je n'ai jamais regretté aucune décision. Donc non, je ne regrette pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas sporadiquement faire un petit tour.
OK.
Ben oui, bravo.
Donc, on pourrait le voir une fois de temps en temps, là.
Dans des occasions spéciales. Mettons qu'ils reçoivent le premier ministre, des affaires de même. Non, mais peut-être que Guy m'a tendu la perche à la fin de l'émission. Il m'a demandé si j'allais revenir. Puis j'ai hésité, mais je pense que ça veut dire que oui. Ça veut dire que j'ai eu une bonne expérience. Parce que il y avait quand même un traumatisme à combattre. Parce que les dernières émissions, mon départ, ça a été tumultueux, ça a été difficile. J'étais comme quelqu'un qui a failli se noyer, puis qu'il fallait qu'il retourne nager un peu. Fait que ça m'a fait du bien de faire l'émission hier.
OK, je vais reposer la question avec une variante. Si l'émission si l'émission revenait à l'ancien mode, c'est-à-dire avec un pré-enregistrement, est-ce que ça pourrait te faire revoir ta décision?
Ben c'est sûr que c'est beaucoup plus facile en pré-enregistrement quand tu joues avec l'humour. C'est comme hier, on regardait Antoine Bertrand. Antoine ne pourrait pas rester en poste plus que 2 semaines.
Il est rock un peu.
Parce qu'il n'y a pas de filtre. Puis il oublie qu'on est en direct. Moi, je le trouve très, très drôle. Mais moi, si j'avais dit ce qu'il a dit, disons, sur le docteur Barrette, on m'aurait crucifié sur les médias sociaux. Ça ne se fait pas de dire que il a dit que le docteur Barrette, on devrait mettre la musique gros jambon pour le. Tu sais, je veux dire, c'est un gros malaise.
Mais en même temps, toi n'es pas sur les médias sociaux, donc il n'y a pas cette espèce de retour que toi tu as. Ou que t'avais?
Ben, on est allé manger après et Antoine avait été voir sur Facebook et il avait vu des commentaires négatifs sur lui et il avait déjà de la peine. Imagine-toi s'il était en poste.
Mais justement, Dani, je sais que ça t'a affecté beaucoup, beaucoup les médias sociaux, mais hier soir, c'était à peu près unanime que les gens s'étaient ennuyés, qu'ils t'aimaient. Est-ce que t'es allé voir et est-ce que ça t'a un peu réconcilié avec les réseaux sociaux?
Écoute, j'ai ma montre qui est branchée sur Twitter, j'ai mon iPad, j'ai mon téléphone. Non, je suis accro des médias sociaux, j'adore ça. Il n'y a pas juste du mauvais, hein. Il y a plein de choses intéressantes aussi. Puis j'essaie d'utiliser la méthode Guillaume Lepage. Là, je m'en connais.
mais Dani, permets-moi de t'interrompre. Guy, là, est-ce qu'il sent tant que ça?
Oh. Je pense que non. Je pense que c'est pas aussi brutal que ça. C'est sa façade, bien sûr. Il va dire ça pour montrer qu'il a confiance et tout. Mais il est sûrement atteint puisqu'il arrête pas d'aller voir, puis qu'il en parle, puis que c'est quelque chose qui le préoccupe. C'est jamais le fun de se faire insulter par des gens. Mais à un moment donné, il faut relativiser aussi. C'est tout ça le cheminement que j'ai fait pendant ces mois-là aussi, que on comprend que ces gens-là qui t'insultent à peu près tout le monde, puis c'est une minorité de gens, puis que ça te vise pas toi nécessairement, c'est de la haine qu'ils ont presque pour eux-mêmes qu'ils rejettent sur les autres. Puis là, à un moment donné, tu te calmes un peu, là. Puis c'est, en plus, il y a plein de gens qui m'écrivent qui m'aiment sans arrêt, là. C'est quasiment gênant.
Dani, je suis curieuse de savoir, est-ce que, après ton départ, t'as pris une pause de regarder les émissions Tout le monde en parle? Est-ce que t'as continué et as-tu jugé les performances des autres Fous du Roi?
J'ai pas été capable de m'empêcher de les regarder. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a aussi rassuré sur ma job parce que j'ai vu que j'avais un job qui était pas facile parce que j'ai vu tous ces gens-là aller, des gens, tout le monde qui sont allés, c'est des gens extrêmement talentueux avec la répartie. Puis je voyais qu'ils marchaient sur des œufs, je voyais qu'ils osaient pas y aller, je voyais qu'ils tatinaient sur une glace mince, qu'ils se sentaient pas nécessairement sur leur X. Tu sais, c'est pas une job facile. Puis ça m'a rassuré de les voir manœuvrer, puis de les voir essayer de tirer leur épingle du jeu. Tu sais, on sentait des fois les gars qui sont préparés, c'est plus difficile, faut pas trop t'improviser, c'est complexe. Là. Le direct, ça complexifie le travail. Pour Guy, c'est correct parce que lui, son entrevue est préparée, il y a tout son matériel, alors que nous, on jongle avec de l'improvisation, on jongle avec de la répartie, ça fait que des fois, tu peux échapper des phrases et des mots qui vont blesser, puis les gens sont de plus en plus susceptibles aussi.
Je t'ai pas vu tweeter contre personne, en tout cas.
Ah, je tweet quasiment.
Merci, Dani.
Faut pas courir après le trouble parce que se prononcer tout le temps, prendre position, ça intéresse qui, dans le fond, qu'est-ce que je pense de telle chose dans l'actualité. Je me suis calmé, je me prononce plus, puis j'ai moins de misère avec ça. Mais au début, j'ai fait des tweets sur les anti-vax, puis là, je courais après le tour. C'est les pires.
Patrick, il prend des notes en même temps.
Mais Patrick, je te regarde manœuvrer, parce que je suis rendu un voyeur sur les médias sociaux, je fais rien, je regarde. Mais toi, tu les mets en lumière, ces gens-là. Puis là, ça, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est bien pour que leur entourage sache que ces gens-là écrivent des choses aussi odieuses. Hein?
Écoute, sage parole, Dani, mais c'était bien de te revoir hier à Tout le monde en parle. Je trouve que ça boucle la boucle d'une belle façon. Merci.
Ben merci beaucoup. Puis j'étais content d'être là. Puis on verra pour la suite des choses. Pour l'instant, je suis chez moi tranquille, puis je repense à ça.
Merci.
Salut.
Bonne journée.
Salut.
Dani Turcotte. Oui, c'est une belle surprise, en fait.
C'est une belle surprise, mais je l'écoute parler, puis j'ai l'impression que c'est peut-être pas notre dernière surprise.
Êtes-vous en train de me dire à la prochaine fois?
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
J'accueille en studio Elena Fajita et Stefano Fajita, son fils. Elena, propriétaire de la quincaillerie Dante et de l'école de cuisine Mezzaluna dans la petite Italie, qui a formé plusieurs personnes, dont moi. Et Stefano, animateur et propriétaire de plusieurs restos comme Impasto, Gemma Pizzeria. Salut vous deux, bienvenue en studio.
Salut, merci.
Merci d'être là. Là, on va parler de panettone pour commencer, parce que tu vends, Stefano, des panettone, mais c'est pour une bonne cause. Oui. Chez ta mère.
Absolument. Fait que cette année, ma mère, à chaque année, elle essaye de donner à une bonne cause pendant le temps des fêtes. Qu'avant, tu sais, ou c'est une cuillère de bois ou un tablier ou quoi que ce soit. Puis cette année, mais on a décidé, c'est la deuxième année qu'on vend du panettone dans les épiceries. Fait qu'on a décidé de vendre le panettone à la quincaillerie, puis à chaque panettone vendu, on offre 5 $ à la Fondation Saint-Justine.
Bon, c'est quelque ça chose pas en
bon
passant.
Sens, c'est bon, bon, hein?
Ouais, écoute, c'est comme un nuage.
Écoute,
ouais,
franchement,
c'est un
là.
Petit goût de citron.
On va parler de Saint-Justine, là. Mais après ça, on va parler de la composition de ce gâteau-là. OK. Ce gâteau-là, vous l'avez fait ensemble, si j'ai bien compris, Elena et Stefano.
Ben, on a, en fin de compte, c'est une compagnie, c'est une importation qu'on fait d'Italie parce okay. que, évidemment, avec le montant de panettone qu'on vend, on a essayé de trouver quelqu'un ici au Québec, mais on n'a pas réussi. Donc, on est allé à la source, évidemment. Le panettone, c'est de tradition en Italie. Donc, on a juste confectionné nos recettes, puis c'est ça que ça donne.
OK. Elena, pourquoi la Fondation de Sainte-Justine? Pourquoi donner 5 $ par gâteau?
Oui, pourquoi j'ai un de mes ex-employés, Annie Perrier, qu'elle a eu sa petite fille de 6 ans avec un cancer. Hmm. J'ai des photos, je vais te montrer. Puis elle est un survivant. Elle a survivant avec la cure 2 ans de temps.
Grâce aux bons soins de
Saint-Justine.
Puis
moi, je trouve qu'ils ont besoin. Pourquoi les enfants, ils n'ont pas besoin de ça? Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être malades. Puis ils ont besoin beaucoup plus. Pourquoi? Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Puis moi, ça me touche ça vient, un peu les enfants.
Ça vient te chercher.
Oui.
Comme nous tous.
Oui, oui. Oui.
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps la collaboration avec Sainte-Justine comme ça, parce que là cette année c'est les gâteaux.
Non, cette année c'est Sainte-Justine, mais on a fait aussi une autre fondation pour Sacré-Cœur une année.
Okay. Pour le cancer du sein aussi, fait que ouais.
Puis le cancer du sein, c'est toujours différent. Fondation.
Différentes causes. Okay,
oui. Parfait. Finalement, à fin novembre ou à mi-novembre, elle m'appelle puis elle dit, je veux donner là cette année. Fait qu'on dit « OK ».
OK, puis raconte-nous donc l'appel de cette année.
Non, non, mais l'appel de cette année, c'était un peu ça. Elle m'a appelé pour me dire « Hey, ton panettone, j'aimerais ça donner 5 $ Il y a Annie qui a travaillé avec nous. Puis là, sa petite fille Rose. Fait que là, j'ai dit « C'est parfait, moi je connais Annie aussi. Je les connais parce que j'ai travaillé avec elle. » j'ai dit « OK, go, on fait ça. »
Mais c'est maman qui décide.
Tout le temps.
Tout le temps.
Pourquoi?
Ben, parce que c'est de même.
Puis je veux aussi...
c'est italien,
non, mais là. Non, mais c'est aussi donner, hein. On est chanceux d'être en vie.
Oui.
Puis qu'est-ce que nous, on passe, on est chanceux à qu'est-ce qu'on a. D'abord, il faut donner.
Donc, 5 $ par panettone,
ouais.
Si on les achète à la quincaillerie.
Exactement.
Parce que je les ai vus en vente ailleurs.
Oui, ils sont en vente chez IGA, Métro, Provigo, dans toutes les bonnes épiceries indépendantes aussi. Fait que, tu sais, on peut les trouver partout, mais c'est que à la quincaillerie qu'on va donner le 5 $
OK, parce que vous avez le contrôle sur le
décompte. Oui, exactement. Donc, Elena a commandé 1 400.
Okay.
Alors, si on vend tous les panettone, on donne 7 000 $ à la fondation.
Oh, un peu mieux.
Wow, ouais. Formidable. Bon, ben, écoute, on encourage les gens à aller en acheter. J'irai en acheter quelques-uns.
Moi, j'ai fini mon morceau.
T'as déjà fini, quatre? Pendant qu'on parlait.
J'ai pas posé beaucoup de questions, je mangeais.
Parce qu'on est habitué à manger du commerce, mais là, c'est complètement autre chose.
Écoute, en même temps, ça vient d'une place, c'est quand même un gros volume, mais on fait affaire avec un commerce familial qui date de quasiment 70 ans en Italie. Donc, on a bien aimé leur technique. C'est quand même un processus quand même assez artisanal, donc c'est un peu ça, tu sais. Non, mais c'est parce que aussi, tu sais, on a des compagnies ici au Québec, ici même à Montréal, qu'on peut avoir quelque chose de très traditionnel, mettons chez Arte Farina, chez la pizzeria Elena, tu sais, Hofkirsten des boulangeries, chez Autumn qui en font, évidemment, sont un peu plus chers, fait que, tu sais, nous, on essaie aussi de donner la chance à tout le monde d'en acheter. Là.
Qu'est-ce qui est si particulier dans je dirais, là, dans la mythologie gastronomique italienne à propos du panettone?
C'est un gâteau de fête.
C'est à ce moment-là qu'on le sort.
C'est à ce moment-là.
C'est pas juste aux fêtes.
Aujourd'hui, c'est connu que des fois, ils mangent des panettones dans l'année. Mais le panettone se mange à l'étang des fêtes.
OK, pas à Noël.
Oui, à Noël. Oui, à Noël
traditionnellement.
Oui, oui, oui.
Fait que si je vais à Rome, là, j'en trouverai pas en été, là.
Après, non. Non. Okay. Non.
Puis okay. Là, tu sais, je veux dire, c'est un gâteau aussi qui est, traditionnellement, qui est c'est comme un gâteau un peu brioché, si on veut, très léger. Tu sais, traditionnellement, on a des raisins secs dedans, on a des fruits confits. Puis là, évidemment, avec la popularité, mais là, tu peux en trouver à plein de saveurs, tu sais, aujourd'hui. Mais là.
Justement, moi, j'ai tout le temps haï l'histoire des raisins secs, des fruits confits. Ouais. Puis là, tu sais, celle qu'on vient de goûter, elle est au citron. Ouais. Oui. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Puis ça me donne, tu vois, j'aimais pas ça, puis ça, ouais. J'aime ça.
Mais tu vois, aujourd'hui, on en trouve citron, chocolat. Nous autres, on a lancé deux nouvelles saveurs cette année, un tiramisu, puis on a lancé un pomme cannelle, parce qu'on se disait, pomme cannelle au Québec, tout le monde aime ça, les tartes aux pommes, on a, tu sais. Mais cela dit, c'est pas notre meilleur vendeur. Tu vois, on est surpris.
Pourquoi?
Je sais pas. Peut-être les gens sont juste tannés de manger des tartes aux pommes.
Mais je
sais pas.
Stéphano Feita et Elena, je veux qu'on parle de la composition de ce gâteau-là. Kat l'a dit, ça goûte, comment t'as dit ça? Ça goûte le nuage
le
ou je sais pas
quoi.
Le ciel. Mais il y a une composition très particulière dans le panettone. Je dis bien, c'est bien
oui,
dit.
Oui, panettone. Ouais.
Ça veut dire gâteau, hein.
Italie, gâteau.
C'est ça? Gâteau.
Panettone,
c'est gâteau,
oui.
Hein.
C'est panettone, c'est pain.
Panettone,
c'est un pain qui met les fruits secs et tout. C'est fait à la levure, c'est élevé ben des heures. Puis quand on lève, c'est
oui,
renversé.
On le renverse. Exactement. Fait que là, on le cuit, puis là, on le renverse. On met genre deux piquets dedans, puis ça va juste le faire. Tu sais, il descendra pas, il va rester élevé oui. Finalement. Ça aide à sa structure finalement.
Mais comment est-ce qu'on atteint là, ce gonflement-là, là?
Oh, ça doit
c'est
être des...
la okay. Levure.
Les œufs, la levure.
Est-ce que c'est difficile à faire?
C'est pas difficile à faire, mais t'as jamais.
Stéphano, pas d'accord.
Non. C'est pas difficile, mais tu vas jamais avoir la texture d'un panettone. Tu vas avoir une recette qui va faire comme un gâteau aux fruits.
OK.
OK, ça va jamais venir fluffy. Comme une vraie panettone.
Pourquoi on n'est pas capable de le faire?
On est capable de le faire, mais ça prend bien des années.
Beaucoup de pratique, Stéphano.
Non, c'est quand même une technique. Ça prend du temps à faire du panettone. Donc, puis on n'est pas... moi, je me suis lancé une fois en enfer vraiment moi-même à la maison, puis je vais être bien honnête, puis j'ai pas eu un gâteau aussi léger qu'on peut manger ailleurs, tu sais. Donc, c'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de, je vois beaucoup de jeunes chefs italiens d'ici de Montréal qui partent pour Rome et pour apprendre les vraies techniques comment le faire, tu sais.
Puis ça n'a pas l'air facile. Là.
C'est pas si facile que
toi,
ça.
Toi, Elena, t'es capable de le faire.
Non, moi, j'ai jamais fait. Jamais. Je fais pas de dessert, moi.
OK, là
moi,
tu m'étonnes.
Parce jamais.
Que, écoute, Elena, j'ai pris des cours à ton école.
Je laisse faire à les gens qui savent faire.
OK. Puis j'ai pris des cours à Mezzaluna. Je pensais que tu devais tout faire. Là.
Non. Pas le panettone.
Hey, moi, je veux savoir, qu'est-ce que t'as appris dans tes cours?
À faire des pâtes.
J'ai pris le cours de pâtes. J'ai pris le cours de tomates en conserve.
Oui. Conserve.
Puis, il me semble que j'en ai fait un autre, mais j'oublie, c'est, mon Dieu, c'est
le cas. Puis dans le milieu de le cours, il part, il s'en va.
Oui, il va faire.
Je me rappelle.
Il va avec son cellulaire.
Ben oui,
là, il va gérer son
travail.
Je vais vous donner un exemple du fait qu'on devrait prendre des cours de cuisine avec des professionnels. Les pâtes, là. OK? Ouais. Moi, je te garde de me faire des pâtes.
Oui.
T'ouvres la canne, puis tu t'en mets. Bon, parfait. Casser des tomates, mettons.
Ouais.
Bon. Mais avec Elena, j'ai appris pour les pâtes crémeuses, les vertus, par exemple, je sais que ça a l'air niaiseux, là, mais je le savais pas. Moi, j'ai fait des pâtes, disons, là, mettre beaucoup de fromage, de parmesan, de la crème, puis j'arrivais jamais à la texture, tu sais, onctueuse. Là, Elena, elle le montrait à tout le monde. C'est tellement simple. Tu prends de l'eau de cuisson, puis à la fin, tu mets de l'eau de cuisson avec les pâtes. C'est ça qui fait que c'est crémeux. C'est niaiseux comme la pluie.
Mmh. Mais j'assure un jour que tu nous fasses
mais
ça.
Mais tant que tu le sais pas, tu rates tes pâtes. Ça, c'est une des choses que j'ai appris.
Mais là, il faut qu'il pratique encore.
Oui. Et évidemment, une fois que quand tu draines tes pâtes, faut pas mettre d'eau froide dedans.
Exact.
J'ai bien appris.
Ça, c'est exact.
Puis il y a deux ans, il faisait des conserves. Là, il nous en a parlé pendant à peu près un mois qu'il était
puis
pour
là,
faire des conserves.
Il a arrêté.
Non, j'ai pas arrêté. Écoute, cette année, j'étais en réno. J'avais pas de place où le faire. On va le refaire.
Ben oui, bon. Ben oui.
Hey, OK, avant de vous laisser partir, justement, à propos des cours, je sais que l'école a suspendu ses cours. Il y a beaucoup de gens. Oui. Écoute, ta mère, Stéphano, là, a formé des centaines. Oui. Absolument. Des milliers de Québécois.
Oui.
Est-ce que ça va revenir, les cours?
Peut-être.
OK. OK.
Peut-être. Là,
écoute,
là,
moi, je pense que ma mère est fatiguée un peu.
Oui.
Je pense que j'essaye de la convaincre de faire des vidéos sur YouTube maintenant pour essayer de transmettre oui. les cours sur écran, finalement. Donc, on va voir. Mais tu sais, il n'y a rien comme avoir les gens en salle.
Oui, j'avoue. Tu
sais, il y a comme un... Ouais.
OK, mais écoute, on s'en ennuie. J'ai hâte de reprendre des cours.
Il y a une connexion avec moi puis les élèves.
C'est pour avoir été dans la petite cuisine, oui,
mais
c'est
là,
vrai.
Mon projet, c'est je crée un livre.
OK. Ouais.
Elena dit.
Ah!
Ça, c'est le titre.
On va vous ramener, on va vous faire revenir.
Puis là, il faut janvier, février, il faut que je travaille sur
On va te réinviter pour en parler.
Ah oui.
Stéphano, avant de vous laisser partir, vous deux. Oui. D'abord, merci pour les panettonés.
Merci.
Je rappelle que c'est en vente à la quincaillerie de Dante. C'est en vente un peu partout, mais chez à la quincaillerie, quand ils sont achetés là, c'est là qu'on donne 5 $ pour la fondation de Sainte-Justine. Les restos, je sais que c'est dur. Je veux savoir, les moyens de pression à la Société des alcools du Québec, est-ce que ça a affecté tes restaurants?
Un tout petit peu, mais pas tant que ça. Nous autres, on avait quand même un bon inventaire de vin.
Okay.
Fait que nous autres, écoute, ça...
Vous roulez là-dessus, là.
Oui, fait que pour l'instant, ça va, pas de problème. Puis même que les gens, tu sais, pour parler de les parties, il y a bien du monde qui me parle des parties de Noël et tout ça, mais encore là, on est là, ça va. On a eu quelques annulations à cause du variant.
OK.
Il y a quelques compagnies qui ont décidé, deux entreprises qui ont décidé d'annuler juste parce qu'ils voulaient pas prendre de chance.
Mm-hmm.
Puis on comprend ça, mais c'est tout.
OK, parfait. Ben écoute, bonne saison des fêtes dans les restaurants.
Merci beaucoup.
Et les notes, toujours un plaisir. J'espère que les cours vont reprendre.
Oui, oui, oui.
Merci. Je vais être le premier
en
ligne.
On va y aller en gang avec lui.
Mais je vous le dis, c'est un triple fun à faire un cours de cuisine.
Parfait. Moi, en tout cas, je veux voir Patrick dans le cours de cuisine.
Moi aussi, on va faire des photos. On va mettre ça sur Instagram.
Elena Fajita et Stéphano Fajita.
Merci.
Merci, bonne soirée à vous deux. Merci d'avoir été là.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise.